les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Héroïnes, une heure avec des meufs. Une émission un peu spéciale dans laquelle je vous propose d'écouter une partie de la table ronde qui s'est tenue il y a 15 jours au Champ Libre autour des chercheuses Gaëlle Debeau et Sandy Montagnola sur le thème « Sport et société, quelle représentation au pluriel du corps féminin dans la littérature et les médias ?» Une table ronde brillamment menée par trois étudiantes en master journalisme à Sciences Po Rennes, Camille Debeau, Laurine Le Goff et Camille Margerie. Mais avant cela, trois actus importantes. D'abord, l'Iran, dont on ne parle plus beaucoup, mais où les arrestations de militantes et militants anti-pouvoir n'ont pas cessé et où la police des mœurs, soi-disant dissoute, est réapparue plus forte que jamais. La répression de la République islamique d'Iran est devenue également législative avec le vote d'une loi le 20 septembre dernier pour soutenir la culture de la chasteté et du hijab avec le renforcement des sanctions. Et l'histoire s'est malheureusement répétée un peu plus d'un an après l'assassinat de Mahsa Amini, puisqu'une jeune fille de 16 ans, Armita Garavan, a été battue par la police des mœurs dans le métro pour non-port du voile. Elle a été transportée à l'hôpital dans le coma et son décès a été annoncé il y a une semaine. Un an après, Mahsa Amini et le mouvement Femmes, Vie, Liberté ont reçu il y a quelques jours le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Depuis 1988, ce prix est décerné chaque année par le Parlement européen. Il honore ceux et celles, individus comme organisations, qui luttent contre l'oppression, l'intolérance et l'injustice et défendent les droits humains et les libertés fondamentales. Au même moment, pratiquement, la militante iranienne des droits humains, Narges Mohammadi, emprisonnée à Téhéran, recevait le prix Nobel de la paix pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran, sa lutte pour promouvoir les droits humains et la liberté de tous. Ses enfants, Ali et Kiana, qui vivent en France et qu'elle n'a pas vu depuis 2015, iront sans doute chercher ce prix en décembre prochain à Stockholm si Narges Mohammadi n'est pas libérée d'ici là. Avez-vous vu passer le hashtag 6 novembre 11h25 ? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Je vous explique. Chaque année, l'économiste et militante féministe Rebecca Amsalem nous rappelle, via sa newsletter Les Glorieuses, une injustice, une discrimination qui perdure malgré la législation, avec un hashtag suivi d'une date et d'un horaire, date et heure à laquelle les Françaises commencent à travailler gratuitement. Cette année, il s'agit donc du 6 novembre 11h25, car l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France est de 15,4% selon l'organisme de statistiques de l'Union européenne, Eurostat. La moyenne européenne est de 12,7%. Alors cette statistique, elle est calculée pour les entreprises de 10 salariés ou plus, secteur public et privé confondu, et selon le nombre de jours ouvrés, soit en 2023 en France, 251. Ensuite, à partir de ces deux éléments, on calcule à quoi correspond cet écart de salaire en nombre de jours ouvrés. Ainsi, 15,4% de 251 égale 38,6 jours ouvrés. Les Françaises travaillent donc bénévolement à partir du 6 novembre 11h25, c'est-à-dire à partir de lundi, là. Et pourtant, une loi existe pour cette égalité salariale en France, une loi qui date quand même de 2006, mais non, toujours un écart de plus de 15% à diplôme et postes égaux. Alors Rebecca Amsalem, elle appelle les élus françaises à faire grève le 6 novembre prochain, lundi, prenant ainsi exemple sur Catherine Jakobsdóttir, première ministre islandaise, qui le 24 octobre dernier était en grève et descendue dans la rue avec d'autres femmes pour défendre l'égalité salariale. Cette année également, Rebecca Amsalem a décidé de mettre l'accent sur une autre injustice financière totalement ignorée en France, que sont les violences économiques conjugales, avec une plateforme dédiée qu'elle a ouverte le 31 octobre, où on peut trouver des conseils, des ressources, faire un test pour voir si on est victime de violences économiques conjugales. Et il y a également une pétition à signer et je vous mettrai bien sûr toutes les infos sur le blog des héroïnes sur le site de Canal B. Il faut signaler ce qui a été peu fait ces derniers temps, que dans ce domaine-là, nous avons aussi un prix Nobel cette année, celui d'économie décerné à l'américaine Claudia Goldin, pour, je cite, « avoir fait progresser notre compréhension de la situation des femmes sur le marché du travail et notamment les inégalités salariales entre les sexes ». Je vous mettrai également quelques ressources à aller lire sur Claudia Goldin, son prix Nobel d'économie et ses recherches. Enjoy and leave, cause it's only love. Voilà ce que Nicolas Mathieu, écrivain, aurait pu chanter à Gérald Darmanin en juillet dernier. Vous avez peut-être, comme moi, suivi cet été le feuilleton Nicolas Mathieu contre le censeur Darmanin sur Instagram. Bah ouais, parce qu'on peut être pris Goncourt et être addict aux réseaux sociaux et notamment à Instagram. Bref, à l'origine, l'interdiction à la vente aux moins de 18 ans du roman de Manu Kos, bien trop petit, parce que celui-ci contenait, selon le ministre de l'Intérieur, des scènes à caractère pornographique, dérogeant ainsi à la loi du 16 juillet 1949, oui, 1949, dite loi 49, justement, qui protège les publications destinées à la jeunesse. Alors face à tant d'hypocrisie et à cette censure abusive, le prix Goncourt 2018, l'écrivain Nicolas Mathieu, donc, s'est agacé, à juste titre, dénonçant un, je cite, puritanisme imbécile et opportuniste, et poursuivant, à 15 ans, on aime et on désire comme des dingues. La littérature a quelque chose à dire de ses états. Le fait de permettre l'émergence de textes qui irriguent cette libido et l'accompagnent ne peut en aucun cas être confondu avec un abus. Nous devrions toutes et tous ensevelir le ministre sous un déluge de nos histoires de cul. Ensevelir Darmanin sous un déluge de nos histoires de cul adolescentes, mais quel postulat réjouissant! Quel postulat jouissif, à partir duquel l'écrivain a lancé le hashtag « When I was 15 » sur Instagram, appelant les gens à témoigner de leur désir de jeunesse émoustillé par certaines lectures pour, je cite encore, « établir de manière évidente que l'adolescence, la littérature et l'érotisme ont justement tout à voir ». Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel et 70 témoignages sont aujourd'hui rassemblés dans un recueil paru il y a tout juste quelques jours et dont les droits seront reversés au planning familial. Ça s'appelle « When I was 15, lire et dire le désir ». C'est aux éditions Thierry Magnier. C'est le même éditeur que Manu Kos, l'auteur qui a été censuré en juillet. Il y a aussi un livre audio chez Actes Sud Audio et un podcast sur Arte Radio. On y retrouve notamment dans « When I was 15, lire et dire le désir », un texte de la rennaise Jessie Magana, autrice jeunesse qu'on a reçue ici dans les héroïnes. Ça coûte 10 balles et je le répète, c'est important, les droits sont reversés au planning familial. Et puis un grand merci à Nicolas Mathieu pour cette incroyable histoire qui devient un livre et pour tout le reste aussi d'ailleurs, ses positions politiques et sociétales, sa prose et son engagement. Pour terminer, Canal B, le Ponant de Passé, vous propose un jeu concours pour gagner 10 places pour le spectacle Vulgaire de Marine Baousson le 18 novembre prochain. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous à la rubrique Plaisir d'offrir sur le site de Canal B, canalb.fr. Allez, il est temps à présent d'écouter une partie de la table ronde sur sport et société. Quelle représentation au pluriel du corps féminin dans la littérature et les médias?
Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être là pour nous écouter. Donc ce soir, on va parler de sport. Dans le domaine du sport, comme dans beaucoup d'autres, les femmes sont malheureusement sous-représentées et souffrent de discrimination par rapport aux hommes. Déjà dans la pratique, le sport, il est l'apanage des hommes qui se le sont historiquement appropriés et qui ont décidé de contrôler le corps des femmes quand elles ont commencé à s'y imposer. Un exemple tout à fait révélateur est le cas de la dernière Coupe du Monde de football féminin qui a été beaucoup moins médiatisée que celle des hommes.
Un autre exemple qui est tout aussi révélateur, c'est qu'aujourd'hui en Europe, les médias sportifs consacrent seulement 15% de leurs sujets aux femmes, il faut le savoir. Or aujourd'hui, ces sportives, elles existent, elles performent et elles s'imposent dans ce champ. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, qu'elles soient amatrices ou professionnelles, trouvent dans la pratique sportive un moyen de se réapproprier leur corps. Et elles le revendiquent d'ailleurs comme tel, que ce soit dans les médias ou même à travers la littérature, comme on pourra le voir. Le sport apparaît alors comme un acte politique, un acte militant, et ouvre de nouvelles perspectives pour construire une société plus féministe. Alors, ce sont toutes ces thématiques que nous allons aborder aujourd'hui autour de cette table ronde intitulée « Sport et société, quelle représentation plurielle du corps féminin dans la littérature et les médias ?» Et pour cela, nous sommes en compagnie de deux chercheuses qui ont travaillé sur ce sujet, Gaëlle Debeau et Sandy Montagnola.
Gaëlle Debeau, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature générale comparée à l'Université Rennes 2 et aussi donc membre du Centre d'études des langues et littératures anciennes et modernes. Vos recherches portent entre autres sur les enjeux des productions de littérature contemporaine, les formes de multiplication des récits et la littérature à l'ère numérique. Depuis plusieurs années, vous vous êtes aussi penchée sur les rapports entre sport et littérature et c'est dans ce cadre notamment que vous avez co-dirigé cet ouvrage, donc avec Jean Cléder, « Mots et images du sport, le corps en représentation ». Sandy Montagnola, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à Rennes 1 cette fois et chercheuse au laboratoire CNRS à Rennes. Vous êtes aussi responsable du BUT de journalisme de Lannion. Vos travaux de recherche se consacrent aux liens entre médias, sport et genre, en privilégiant l'analyse de corpus journalistique, la réalisation d'entretiens et aussi l'observation participante auprès de journalistes. Vous avez notamment travaillé sur la boxe, l'athlétisme et les Jeux Olympiques. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, on aimerait un petit peu évoquer avec vous l'idée de discrimination. Souvent, quand on pense des femmes, aux femmes dans le sport, le premier mot qui va nous venir, c'est les discriminations. Est-ce que vous pouvez un petit peu évoquer les discriminations dont sont victimes les femmes dans la pratique sportive au regard de vos études et vos recherches individuelles? Sandy, si vous voulez commencer.
Après, vraiment, pour résumer, parce qu'on n'a qu'une heure, et parce que sinon, c'est... Mais globalement, on a un continuum de discrimination. Ce que montrent les recherches, c'est que on a des discriminations qui sont à la fois sociales, donc des réticences et des résistances à voir les femmes faire du sport. Et en fait, là, ces résistances sociales, on les voit plutôt à l'école. On sait qu'au collège, par exemple, la cour est vraiment répartie entre les garçons et les filles. Et donc, les filles ont beaucoup de mal à pouvoir intégrer certains jeux collectifs, notamment le foot. Et donc, on a des expérimentations qui se font maintenant pour essayer d'amener un peu cette mixité. On a aussi des discriminations. C'est pour ça que je parle vraiment d'un continuum. Une partie des discriminations se font aussi dans les politiques publiques, parce qu'on n'a pas les mêmes financements. Donc, c'est des créneaux, par exemple, qui ne sont pas les mêmes. Dans certains cas, en fait, les sportives, enfin, les femmes vont devoir aller beaucoup plus loin pour aller trouver un club, par exemple. Donc ça veut dire que ça empêche aussi de le faire. Et puis parmi les discriminations, en France, les femmes ont encore majoritairement la charge familiale et des tâches ménagères. Et donc ça empêche d'avoir du temps de loisirs qu'on consacre au sport. Donc ça fait aussi partie des discriminations, donc plus économiques en fait, finalement. Et pour finir, des discriminations médiatiques, parce qu'elles sont beaucoup moins médiatisées et que ça a aussi un impact économique, parce que ça les empêche parfois de trouver des sponsors et donc de ce fait de pouvoir vivre de leur sport.
Pause musicale dans Les Héroïnes sur Canal B. On écoute Claire, Saint-Gilles Croix de Vie.
Le vent lui dit, suffit de baisser le tempo. c'est Farrah Fawcett. Si tu ouvres les yeux, ben c'est ma tête.
C'était Claire Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur Canal B dans les Héroïnes. On va retourner autour de la table ronde qui parle sport et société. Quelle représentation au pluriel du corps féminin dans la littérature et les médias avec deux chercheuses, Gaëlle Debeau et Sandy Montagnola. Une table ronde menée par trois étudiantes en master journalisme à Sciences Po Rennes, Camille Debeau, Laurine Le Goff et Camille Margerie.
Donc, comme vous le disiez, il y a de nombreuses injonctions qui pèsent sur le corps des femmes dans le sport. Aujourd'hui, en fait, les femmes, on se rend compte qu'elles sont dans un entre-deux permanent. Soit elles doivent se conformer à ce que les hommes attendent d'elles, donc être belles, pratiquer des sports jugés féminins. Soit alors elles doivent résister à ces injonctions et entrer en lutte contre les hommes et se battre donc pour être reconnues dans leur pratique sportive. Et pour certaines, quand bien même elles se battent et elles battent des records, elles sont accusées d'être des hommes. Donc c'est le cas de Caster Semenya, un exemple assez représentatif, donc une athlète sud-africaine, je vais vous montrer l'image juste après, championne du monde du 800 mètres en 2009, qui s'est vue immédiatement imposer par la Fédération internationale d'athlétisme un test de féminité. Donc on remet en cause sa féminité, jugeant sa performance improbable pour une femme. Cet exemple n'est malheureusement pas un cas isolé et nous amène à évoquer les travaux de la sociologue Catherine Louveau, qui a abordé la question de la place des femmes dans le sport sous un angle très intéressant, en soulignant cette accusation de virilité, et elle parle même de procès de virilisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ?
En fait, c'est on est plusieurs chercheurs et chercheuses à avoir travaillé sur Caster Semenya. Pour une raison qui était simple, c'est qu'en gros, c'est une question qui est quasiment jamais posée, en tout cas, de savoir qui est à même de définir ce qu'est un homme et une femme. Alors ça paraît simple, dit comme ça. En fait, ça ne l'est pas tant que ça. L'institution sportive l'a fait, en fait, avec les tests de féminité, alors qui ont changé dans le temps, hein, parce qu'au départ, c'était des médecins qui demandaient aux femmes de se mettre nues et qui leur disaient « bah oui, vous êtes un homme, vous êtes une femme », enfin voilà. Ensuite, il y a eu des tests chromosomiques, des tests salivaires, etc., bon, hormonaux, etc. Pour nous, ce qui est intéressant ici, c'est de... En fait, si on pousse ce raisonnement, on va dire, le plus loin possible, c'est d'essayer de voir comment la musculature peut, et donc si on revient sur la question du corps, hein, comment la musculature en fait peut devenir un élément qui en fait basculerait les femmes du côté, et en fait de cette expression que vous avez déjà dû entendre au collège ou au lycée, de garçon manqué. Et donc ça veut dire qu'en gros la limite entre hommes et femmes se ferait sur des éléments visibles. Et sur Caster, je sais pas si on voit les images après, mais là ça vous montre à quel point ça a été violent en termes de médiatisation, parce que là évidemment c'est dans sa famille, puisque on disait en fait il fallait qu'elle prouve qu'elle n'était pas un homme. Ce qui est important ici, c'est qu'historiquement, il n'y a jamais eu aucun cas de triche avérée d'hommes qui essaieraient de se faire passer pour des femmes, pour avoir des médailles. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et en fait, les médias se sont basés sur deux choses pour dire que ce n'était pas une femme. En fait, on la voit courir, et tous les médias ont repris cette image-là. On la voit concourir avec toutes ses collègues et adversaires. Et en fait, toutes les autres sont avec des culottes. Et elle a un short. Et en fait, dans les médias, c'est devenu, en fait, elle a quelque chose à cacher. Donc, c'est sa tenue qui a posé problème. Et ensuite, les médias ont dit, en fait, elle, quand elle a gagné, elle a levé les bras en l'air, comme le font les hommes. Et donc, en gros, elle a montré ses muscles. Et c'est devenu, dans les médias, on voit bien qu'elle a une façon de se comporter qui n'allait pas. Et en fait, c'est en ça que c'est intéressant, parce qu'en creux, ce que ça montre, ce sont les attentes, en fait. C'est-à-dire que pour se conformer, pour être une femme, ça voudrait dire que ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas être... En gros, on a dit, après, certains journalistes disaient, les femmes, en fait, elles vont plutôt célébrer entre elles, en se prenant dans les bras, entre femmes. Alors que, bon, on voit bien que ça, c'est évidemment un comportement social qui n'a rien à voir avec le fait d'être homme ou femme. Mais ce que ça vient questionner ici, c'est vraiment le fait de biologiser. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tant son physique, etc., qu'on peut discuter, c'est ce qu'on fait de son physique pour essayer d'en faire quelque chose qui serait à la fois en termes de homme-femme, mais aussi en termes de elle, son caractère. Et donc c'est le fait de partir d'un élément biologique pour essayer d'en faire quelque chose qui la définirait, qui évidemment a posé problème. C'est en cela qu'elle parle de procès de virilisation. Parce que pour terminer, plus les femmes font des sports dans lesquelles elles sont musclées, et en gros plus elles s'éloignent des normes de féminité culturelles, donc qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays, et plus elles ont de mal à intégrer les médias. Donc plus on a du mal à en parler, en gros.
On peut aussi du coup se poser la question du conflit entre l'esthétique et la performance dans le sport, comme vous l'évoquiez jusqu'alors, Sandy. En fait, est-ce qu'il faut être belle avant d'être sportive pour une femme ?
En fait, c'est intéressant parce que dans l'ouvrage de Julie Gaucher, qui est une chercheuse qui a travaillé sur la représentation du sport dans la littérature et puis sur la figure de la sportive, en fait, elle a publié une anthologie en 2019 qui s'appelle « De la femme de sport à la sportive ». Elle montre en fait comment, à travers les époques, en remontant jusqu'au début du XXe siècle, la littérature a contribué aux côtés d'autres formes médiatiques, à construire une représentation qui serait ce qui est permis pour les femmes dans le sport, c'est-à-dire à quoi elles ont le droit de ressembler quand elles font du sport. Elle montre notamment que dans les textes des années de la première moitié du XXe siècle, en gros, il y a des sportives qui sont représentées, mais les femmes font un certain type de sport. Elles font de la gymnastique, elles font éventuellement de l'équitation, elles font pourquoi pas du patinage. Mais voilà, ce sont des sports dans lesquels elles peuvent être gracieuses, en fait. Et donc, ce sont des sports qui conservent cette image de la féminité dont parlait Sandy, qui ne viennent pas remettre en cause cette image-là. Et donc, ce sont aussi des représentations qui viennent enfermer, en quelque sorte, la femme dans ce cadre, qui viennent prescrire les types de sports qui sont possibles. Et moi, ce que je trouve intéressant sur cette question de l'opposition potentielle entre beauté et performance, c'est aussi que... on parle de performance quand on parle de performance sportive, c'est-à-dire réaliser un acte sportif potentiellement du côté de l'exploit ou autre. Mais en fait, il faut savoir que la beauté, on peut aussi la performer, alors dans un sens un petit peu particulier, qui est celui que lui donne la philosophe américaine Judith Butler quand elle dit qu'on vient performer un genre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce que disait Sandy, on est homme ou on est femme aussi, et beaucoup pour des raisons de représentation, des raisons de construction sociale, c'est-à-dire qu'on se conforme plus ou moins à ce que notre société nous dit être la bonne description d'un homme ou la bonne description d'une femme. Être belle pour une femme, c'est performer une certaine idée de la féminité qui repose, alors ça a évolué selon les époques, mais n'empêche qu'il y a quand même cette idée que dans la féminité la plus classique et conservatrice, il y a une forme de faiblesse qui est antithétique avec l'idée du sport qui puisse conduire à avoir un corps puissant. Et dans les œuvres littéraires que moi j'étudie, il y a vraiment cette question-là d'essayer d'atteindre une forme de puissance qui serait une puissance du corps, c'est-à-dire me rendre compte, et c'est ce que montre Yamina Ben Ahmed Dao dans son roman, se rendre compte qu'en fait on peut jouer au foot, qu'on peut tenir un match de 90 minutes, qu'on peut se prendre des coups dans les tibias et pas s'écrouler par terre et se relever, qu'on peut marquer un but de la tête et qu'en fait même si ça fait mal, c'est bien. Voilà, donc on a un corps puissant et qu'on oublie dans cette activité-là le fait qu'on est une femme ou un homme, ou voilà, on est un corps, et c'est ça qui compte. Et cette puissance-là, c'est aussi associé à une forme de puissance morale, c'est-à-dire c'est une façon d'acquérir du pouvoir. Et toute la question, c'est de savoir comment on s'autorise ce pouvoir, est-ce qu'on se l'autorise, et le sport peut être un biais éventuellement pour se l'autoriser. Et je voulais juste terminer en vous donnant une petite citation d'une autre autrice qui s'appelle Brigitte Giraud, que vous connaissez peut-être. Elle a eu le prix Goncourt de littérature l'année dernière pour un texte qui s'appelle Vivre vite, dans lequel elle retrace un deuil, donc il n'est pas question de sport, mais elle a écrit plusieurs textes souvent autobiographiques où elle parle de son corps. Et elle a écrit en 2005 un texte qui s'appelle J'apprends, et qui est aussi sur cette transition entre l'enfance et l'âge adulte, dans lequel elle raconte un souvenir d'enfance lié au sport, et ça rejoint complètement ce que disait Sandy sur la question du garçon manqué, c'est-à-dire le fait de faire du sport pour une fille, est-ce que c'est encore être une fille ou pas ? Donc je vous lis juste ce passage. Elle nous dit la chose suivante, elle dit « Je pars en colonie de vacances avec mon demi-frère à Saint-Laurent-du-Pont. Je joue au foot avec les garçons, je connais toutes les règles, corner, hors-jeu, coup franc. Je marque un but avec la tête et deviens une héroïne. Je connais les équipes d'Europe, le Bayern de Munich, l'Ajax d'Amsterdam, je connais Cruyff et Beckenbauer. Lors d'une soirée mannequin, je défile habillée en footballeuse. Je ne veux pas être comme les autres filles, avec des jambes molles et des maux de ventre. Je ne veux pas être empêchée parce que je suis une fille, je deviens une fille-garçon. » Et voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à sortir aussi de ce modèle fille-garçon, comment est-ce que ces autrices arrivent à se penser comme des femmes qui font du sport sans que ce soit un problème en fait.
Alors on aimerait maintenant revenir un petit peu sur le rôle des médias dans la représentation des femmes, parce que c'est quand même un point important de cette conférence. Alors pour ça, on va vous passer un petit extrait sonore qui vous fera rire, ou peut-être pas d'ailleurs.
Il avait fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur.
Sa morphologie n'a pas tellement changé.
En tous les cas, moi, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne.
Voilà, donc ça, c'était des commentateurs sportifs. Ça fait rêver, globalement. Alors, pour la faire courte, au XXe siècle, les hommes ont considéré que le sport féminin ne serait pas vendeur. Donc, quand les sportives ont commencé à performer, Ces messieurs ont décidé d'imposer notamment un code vestimentaire. L'idée, c'était en toile de fond de garder la main mise sur ce domaine qui leur était jusque-là complètement réservé. Et dans la même idée, les journalistes aujourd'hui perpétuent cette sexualisation des corps des sportifs, notamment par leurs choix médiatiques. Il suffit de regarder les chaînes hertziennes les plus regardées et on constate que les femmes sont visibles un tiers du temps qui est consacré au sport. Et encore, quand on les voit, c'est principalement dans des sports comme le patinage, la gymnastique ou encore la natation synchronisée.
La natation synchronisée.
Alors comme les autres femmes, et peut-être même davantage, ces sportives, elles sont tenues d'être en représentation, vraiment d'incarner cette féminité à tout moment, et elles ne sauraient transgresser à cette obligation sociale de conformité sans risquer d'y perdre déjà leur identité, et même de transgresser un certain ordre de la nature, qu'on va venir bien sûr mettre entre gros guillemets, parce que en réalité c'est bien un ordre de la culture. Peut-être Sandy Montagnola, quelle est selon vous la responsabilité des médias dans la discrimination des sportifs, puisque ce sont eux qui mettent en scène ces corps finalement pour le grand public?
Ce qu'on vient d'entendre, c'est des stéréotypes qui sont très forts et il y a une forte responsabilité des médias sur ces points-là. Par contre, ça reste quand même de façon assez marquée ici, c'est-à-dire qu'on extrait quelque chose qui est extrêmement stéréotypé, qui n'est quand même pas au quotidien, heureusement, mais qui existe toujours. Et si on veut essayer de complexifier un peu l'analyse, il y a, je pense, vraiment trois éléments. C'est que c'est un écosystème complet. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Le premier, c'est qu'il y a les organisations sportives qui en amont organisent et dans lesquelles, il faut le rappeler, il y a majoritairement des hommes à la responsabilité des fédérations. Donc là aussi, il y a tout un travail de mixité, mais je le rappelle, les entraîneurs, 13% de femmes seulement. Dans les présidents de fédération, c'est pareil. Et puis la répartition se fait selon les types de sports. Donc on trouve des femmes dans les sports les plus féminisés. Donc ça, c'est la partie organisation. Et là, il faut rappeler, par rapport à ce que disait Gaëlle juste avant, que c'est cette institution sportive qui a pendant très longtemps utilisé l'argument des femmes qui étaient trop fragiles pour leur interdire l'accès au sport. C'est en fait le premier rapport entre l'institution sportive et les femmes, c'est d'essayer de pouvoir venir. Et donc, par exemple, pour les Jeux Olympiques, c'est un rejet complet des femmes pendant longtemps et de dire, par exemple, elles ne seront pas capables de faire plus de 200 mètres. Et donc, elles avaient interdiction de disputer le 400, le 800, je ne parle même pas du marathon, parce que l'idée était de dire qu'en fait, on interdisait le sport aux femmes parce qu'on pensait que ça allait les empêcher d'avoir des enfants. Et ça, c'était soutenu beaucoup par les organisations sportives. Donc, c'est un petit point historique, mais c'est important parce que ça joue toujours sur les relations actuelles, j'ai envie de dire. Les médias, en fait, eux, ils viennent sur ce niveau-là et on a un aspect économique. Et donc, pour boucler la boucle, cet aspect économique fait que les médias payent des droits télé, par exemple, pour les Jeux Olympiques. Et c'est ça, en fait, qui paye hein, une partie des championnats du monde, des Jeux Olympiques, etc. C'est les droits télé. Et les droits télé, c'est aussi ce qui va permettre ensuite aux athlètes de vivre via les sponsors. Et donc, la responsabilité des médias ici, elle est à plusieurs niveaux. Mais évidemment, ils ne sont pas seuls là-dedans. C'est-à-dire que parfois, et donc nous, par exemple, c'est ce qu'on a fait sur une des enquêtes, on a suivi les journalistes. Parce qu'on se disait, c'est marrant, dans les chaînes, il y a quand même des chartes pour qu'il y ait une égalité, pour que... Donc pourquoi on en est... Enfin, comment ça, en fait, c'est encore possible? Ça, c'était notre question. Et on a accompagné la BBC, la RAI, France Télé. On est allé au championnat du monde d'athlétisme et puis on s'est dit, on va regarder comment ils travaillent, en fait, pour comprendre comment c'est possible. Et en fait, alors, ça excuse pas, mais l'explication, c'est aussi que les organisations, en fait, dirigent les médias dans certains lieux. Ils peuvent pas aller partout. Ils peuvent pas interroger qui ils veulent. Donc, ça veut dire qu'en fait, souvent, c'est aussi des non-choix. Il y a aussi cette difficulté d'accès. Et puis, les athlètes, maintenant, en fait, eux-mêmes ont une image à défendre vis-à-vis des sponsors auprès desquels ils sont engagés. Et donc, les femmes, par exemple, les sponsors, on va leur demander, s'il serait bien d'avoir tel type d'image. Et donc, elles ont du media training. Et donc, leur idée, c'est de construire une image. Par exemple, Myriam Lamarque était une championne du monde française de boxe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais 2005. Elle était plusieurs fois championne du monde. Elle représentait donc la France. Et en fait, pour trouver des sponsors, j'avais fait des entretiens avec sa chargée de communication. Et pour trouver des sponsors, on lui demandait de poser. Donc là, vous le voyez sur son site, elle est posée avec une robe de soirée, des talons aiguilles. Parce qu'en fait, ce qu'on lui reprochait, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais la boxe, c'était quelque chose, et alors au-delà de la musculature, hein, mais ça posait problème parce que ça a montré que les femmes pouvaient aussi aller dans des sports violents. Et en fait, se rendre compte que oui, en fait, les femmes peuvent aussi aller vers des sports violents. En fait, il n'y a pas de raison qu'elles ne le fassent pas. Mais sauf que ça ne plaisait pas aux sponsors. En fait, les sponsors préfèrent aller vers du beach volley, vers des sports qui en fait, respectent plutôt les codes de la féminité. Donc pour répondre à la question sur la responsabilité des médias, évidemment, Il y a une responsabilité qui est très forte de co-construire cet élément-là. Mais il y a aussi, évidemment, qu'ils sont dans un écosystème et qu'en fait, parfois, bah, ils sont là aussi pour, quand ils ont payé des droits télé, bah, pour aussi vendre, par exemple, ce qui est le plus attendu par les personnes. Et donc, bah, le plus attendu, c'est ce qui est le plus populaire. Et pour l'instant, en France, le plus populaire, ça reste le sport masculin. Et c'est ça aussi la difficulté pour les médias de changer quand eux-mêmes, ils ont des injonctions économiques. Donc, c'est vraiment un écosystème qui est compliqué, en fait, à comprendre.
Et Gaëlle Debout, vous avez travaillé, vous, sur des œuvres littéraires, mais comme vous le dites, elles contribuent au discours médiatique. Alors, est-ce que vous remarquez exactement la même chose ?
Ouais, en fait, je pensais, en écoutant Sandy, à deux choses. Déjà, dans l'anthologie de Julie Gaucher, dont je vous parlais tout à l'heure, Julie Gaucher a aussi travaillé sur des manuels de savoir-vivre, écrits notamment par des personnes qui disent comtesse de ceci ou comtesse de cela. Et donc, c'est des manuels du type comment bien tenir sa cuillère, comment bien se comporter en société. Et il y a toujours des pages sur la pratique du sport pour les femmes. Et la pratique du sport est encouragée dans la mesure où ça permet de maintenir un corps en bonne santé qui permet ensuite de bien porter une grossesse. Donc on va faire du sport jusqu'au point où ça nous permet de pouvoir enfanter correctement, mais si ça va au-delà, alors il faut s'arrêter. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au départ, je me disais, voilà, je voulais répondre à cette question en parlant de l'espace un petit peu particulier qui est celui de la littérature dans la construction des représentations. Mais en fait, je me disais, en écoutant la réponse de Sandy, que dans le champ de la littérature aussi, bien sûr, c'est un espace commercial et il y a marché éditorial. Et je pensais à ces collections de littérature pour la jeunesse, pour les jeunes ados, des livres... orienté garçon avec des personnages de garçons qui jouent au foot et des livres orientés filles avec des personnages de filles qui font de la danse. Et ça, ça contribue aussi à créer et à maintenir peut-être des formes de discrimination. C'est pas tellement de la discrimination, mais en tout cas, c'est une forme de partition genrée. Les garçons font du foot, les filles font de la danse. Et parfois, il y a quand même des choses qui passent entre ces frontières-là, mais c'est toujours du registre de l'exception. Alors, si on laisse de côté la littérature jeunesse et ces exemples-là, en fait, on trouve, moi, dans les œuvres que j'étudie, des choses qui cherchent à faire bouger les lignes, qui cherchent à remettre en cause aussi un petit peu cette idée que si on fait du sport, c'est parce qu'on est un garçon manqué. Et je pense que c'est lié au fait que la littérature est... c'est beaucoup moins lu. En fait, les œuvres dont je vous parle, je ne suis pas certaine que vous les ayez lues ou que vous les connaissiez. Ce n'est pas du tout grand public en réalité. Et donc, je pense que pour cette raison-là, ça offre un espace de liberté un peu plus grand. Il y a quand même un exemple que je trouve intéressant qui est celui de Chantal Thomas, une autrice qui a été admise à l'Académie française, qui est une grande nageuse. Elle dit qu'elle pratique la nage et pas la natation précisément parce qu'elle fait du sport, mais pas dans le but d'en faire un exploit sportif ou une performance, mais plutôt dans un rapport au monde, à la nature. Elle nage beaucoup dans la mer, dans la Méditerranée, dans l'Atlantique. Et elle a écrit plusieurs ouvrages sur cette expérience de nage qu'elle a, notamment un récent qui s'appelle Journal de nage après le début de la crise Covid et les premiers confinements. Et puis un autre qui s'appelle Souvenir de la marée basse, où en fait elle vient raconter son rapport à la nage, le rapport de sa mère à la nage. Elle vient décrire les corps qui nagent, féminin comme masculin, avec une vraie poésie, avec une forme de lyrisme qui rend tout ça très beau. Donc ça revient aussi sur la question de la beauté dont on parlait tout à l'heure. Comment réussir à construire de la beauté autour de ses corps dans l'action sportive. Et ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui est à l'Académie française. Donc elle a une forme de reconnaissance de ce point de vue-là. Et elle écrit sur le sport avec un point de vue féministe, avec un engagement féministe. Et donc voilà, je trouve que c'est une façon peut-être d'essayer de faire bouger les lignes, même si j'ai pas de retour sur est-ce que ça les fait bouger vraiment, mais ça y contribue, je pense.
Alors c'est super parce que vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question, donc je vais me retourner vers vous, okay. Sandy Montagnola.
Ah non.
Est-ce que vous verriez un petit peu des moyens, des clés pour justement donner au sport féminin une place égale dans les médias et peut-être plus loin encore une crédibilité égale?
Alors, je pense parmi les éléments, si je reprends ce que je disais tout à l'heure sur l'exemple qui est mis là où on voyait Myriam Lamar, j'ai mis un exemple à côté de la façon dont ça avait été médiatisé dans l'équipe. Je dirais que ça condense cet exemple-là assez bien ce qu'est le sport, c'est-à-dire on a au féminin, on a l'impression que c'est une progression constante, c'est-à-dire on se dit toujours. Il y a un peu la question à la fin, mais les journalistes souvent qui nous interrogent C'était le cas, par exemple, là, parce qu'il y avait la Coupe du Monde de foot. Souvent, on nous dit à la fin, oui, mais quand même, ça s'est amélioré, avec cette envie que, bah, qu'on réponde, oui, ça s'est amélioré. Et en fait, ce qu'on voit, bah, si je prends l'exemple de la boxe, c'était assez intéressant parce que c'était la première fois en France, donc 2005, c'est très tardif, hein, que les femmes avaient le droit de disputer un championnat du monde reconnu de boxe WBA. Donc, ce qui est quand même, voilà, on est vraiment début des années 2000. Les premiers articles dans l'équipe, c'est en fait, c'est simple, c'est une invisibilisation. Donc, on n'en parle pas. Donc, comme on a fait pour le début du sport féminin. Et puis, finalement, donc, les journalistes que j'ai interrogés à cette époque-là, donc 2004, quand elle a commencé, me disaient, non, mais franchement, une femme, elle a rien à faire sur un terrain, elle ferait mieux d'être dans sa cuisine. J'ai entendu plusieurs journalistes dire ça, mais aussi d'autres qui étaient dans d'autres médias qui disaient, bah ouais, c'est super, mais pour l'instant, elles n'ont pas le niveau. Donc, ça montre aussi que selon les médias, selon les lignes éditoriales, on a déjà des grosses différences, déjà début des années 2000. Et puis finalement, bah, elle a été championne du monde, une première fois, deuxième fois, troisième fois. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est à côté, on n'a plus de boxeurs. Il y a une sorte de crise de la boxe, bon, pour ceux qui s'intéressent un peu à la boxe. Et en fait, bah, les médias ont vu à ce moment-là une opportunité de se dire, bah, finalement, c'est intéressant parce que bah, puisqu'on n'a plus de boxeurs, tant pis, on va prendre les boxeuses. Et donc en gros, il y a eu aussi ce contexte qui a pu jouer. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui jouent, c'est que là... Au départ, on n'en parle pas. Finalement, on se dit, bon, il y a quand même une championne du monde française, donc on commence à en parler un petit peu. Et puis, ce qui arrive, c'est une distinction. Donc, en fait, on va en parler, mais comme si on construisait un sport un peu différent. Et c'est exactement ce qu'on a là, par exemple, c'était une âme de velours dans un gant de fer. C'est-à-dire, c'est rappeler que, oui, c'est une femme, oui, elle fait de la boxe, mais il y a toujours cette idée de velours, de quelque chose qui, ben, en fait, qui doit être différent de celui des hommes.
La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur et de sang et de sang.
Et ça, c'est exactement ce qu'on trouve encore actuellement. Par exemple, si vous avez suivi un peu avec la Coupe du Monde de foot, ça a été vraiment de dire ouais, mais en fait, c'est super parce que c'est un autre sport. C'est-à-dire comme si elle ne disputait pas le même foot parce que bah, alors, ce serait plus technique, elle ferait moins semblant, il y a moins d'enjeux économiques. Donc en gros, c'est l'idée de dire finalement c'est un sport, mais ce n'est pas le même qu'elles font. Ce qu'on ne vient pas questionner, c'est les conditions. C'est-à-dire oui, forcément, elles font moins semblant, mais c'est-à-dire bon, pour une partie d'entre elles ne gagnent pas leur vie comme ça. Donc on est sur des différences de conditions. Donc du coup, pour répondre, il y a eu une progression. On est passé de pas du tout les voir à les voir. Ensuite, on les a vues, mais à condition qu'elles soient différentes. Donc, on montre qu'il y a quand même des différences dans les façons de les médiatiser, etc. Et puis, en fait, elles retombent dans l'oubli. C'est-à-dire que là, la boxe, on en parlait beaucoup plus en 2005-2007. Maintenant, en fait, on n'en parle quasiment plus parce que bah, ça vend moins, peut-être. Et donc, bah, on est passé à d'autres... Donc, j'ai envie de dire que sur cet élément-là, bah, hop, ça retombe. C'est un peu la même chose pour le foot. Et là, les JO, c'est un enjeu énorme parce qu'en fait... Pour beaucoup de sports, les athlètes savent que derrière, il n'y aura plus rien, en fait, en termes de médiatisation. Donc, bah, du coup, si on prend cet élément-là, comment on pourrait améliorer ? Bah, en fait, il faudrait travailler sur les conditions dans lesquelles les femmes font du sport, c'est-à-dire qu'elles aient un salaire. Parce que du coup, le niveau est différent, parce qu'aussi, elles n'ont pas du tout les mêmes conditions d'entraînement. Enfin, voilà, les témoignages sont nombreux là-dessus. Mais c'est aussi que plus les médias seront soumis à des injonctions économiques, et moins les femmes accéderont aux arènes médiatiques. Parce qu'en fait, ce qu'on voit... alors nous, parce qu'on le compte, alors personne ne s'amuse à faire ce qu'on fait nous. C'est-à-dire nous, on s'amuse à compter tous les sports, combien ça représente. Et en fait, il y avait une beaucoup plus grande diversité de sports avant que ce qu'on trouve maintenant. Parce que plus on va presser les médias économiquement, et plus les médias vont aller vers ce qui marche le plus facilement, à savoir du foot masculin. Et donc, bah, un des éléments, c'est aussi de jouer sur ces enjeux. En fait, ils sont tellement contraints dans le stade, parce qu'il faut quand même se rendre compte que les journalistes, alors encore une fois, ça n'excuse rien du tout de ce qui va être fait. Nous, quand on est allé à Londres, on était au championnat du monde d'athlétisme de Londres, et en fait, c'est-à-dire en gros, il y a vraiment des emplacements en fonction de ce que vous payez en tant que chaîne. Donc en fait, plus vous payez, plus vous avez le droit de choisir vos emplacements. Et là, en fait, c'est complètement contraint. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de vous dire tiens je vais faire un gros plan sur un tel ou faut payer des caméras supplémentaires par rapport à ça. Et de plus en plus c'est fait par des pilotes automatiques en fait, donc ce sont des caméras automatisées, donc ça veut dire qu'en fait on a beaucoup moins de choix en fait du point de vue journalistique, c'est des tout petits box en fait, et donc les chaînes payent et en fonction de ça bah, vous avez en gros c'est des espaces dans lesquels en fait les athlètes doivent passer à la sortie de leur performance. Et donc, imaginons, vous avez payé cher, vous êtes la BBC, vous avez le premier emplacement. Donc, l'athlète arrive, il est juste là, vous avez une minute avec lui, donc une minute pour faire des questions pertinentes. On est d'accord, c'est un peu compliqué. Il a un gros spot lumineux juste derrière. Et puis, merci, au revoir. Ensuite, il y a France Télé. Est-ce que vous voulez parler, oui ou non? Et en fait, selon les engagements avec les sponsors, ils vont s'arrêter ou pas. Alors, si vous êtes un média télé, ça va. Si vous êtes en radio, bonne chance à vous. Vous êtes 60e, tout en haut là-bas. Et ça veut dire qu'en gros, on est d'accord que quelqu'un qui a déjà fait toutes les télés va vous redire quoi? Quelque chose de passionnant. Je suis super content d'avoir gagné, parce qu'à la fin, en fait, c'est ça qui se passe. Et donc, on a aussi les conditions qui font que, pour poser des bonnes questions, c'est tout cet environnement-là qu'il faut revoir. Et puis, pour terminer, y a aussi un gros travail, évidemment, sur les stéréotypes, les désignations. Le choix des termes, parce qu'on voit bien que la stéréotypie se fait aussi, évidemment, du côté des journalistes, hommes ou femmes, d'ailleurs.
La boxeuse amoureuse.
J'ai écouté hier un podcast d'un collectif qui s'appelle Les Sportives et qui a fait un épisode de podcast avec Nathalie Yanetta, que vous connaissez peut-être, qui a longtemps été journaliste sportive à Canal+, qui a présenté les émissions de foot, notamment du dimanche. Elle a été brièvement conseillère sportive pour Hollande aussi. Ensuite, elle était du côté de Téléfoot et maintenant elle est à la direction des sports de Radio France, et donc elle participait à ce podcast. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, les questions qu'on lui posait, c'était vous qui avez une belle carrière, est-ce que le fait d'être une journaliste sportive, ça permet justement de faire bouger les lignes, de faire progresser les choses? Elle expliquait que, en fait, elle a mis longtemps à se rendre compte du rôle qu'elle devait jouer en tant que journaliste sportive. Et j'ai juste pris deux citations qui m'ont marquée. Elle a dit qu'au début, qu'elle a compris après coup que, au début, elle était. En fait, elle n'agissait pas en faveur de la parité, même. On en est loin de la parité en termes journaliste sportive, mais qu'elle disait que ce n'était pas mon intérêt de militer à ce qu'il y ait plus de femmes parce que ça dégrade ma position. Et elle a dit la chose suivante aussi, j'ai finalement compris que j'étais une exception là où je devais être un exemple. Et ça, elle le dit aujourd'hui. Et c'est une prise de conscience qu'elle a eue maintenant, et elle explique que le poste de directrice sportive à Radio France, en fait, c'est important parce qu'elle, en tant que femme en position de pouvoir, elle peut faire bouger les lignes parce qu'elle peut embaucher plus de sportives, qu'elle peut modifier les conditions de travail pour que ce soit plus favorable à des journalistes sportives qui ont aussi, comme le rappelait Sandy, plus souvent, plus traditionnellement, la charge de famille, et les deux sont quand même pas très compatibles. Voilà, et donc elle disait, en fait, je me suis rendu compte, mais tard, que j'avais un rôle à jouer et que je devais me servir de cette position pour faire bouger les choses. Et je trouve que oui, si ça évolue, bien sûr, c'est un peu ce qui ressortait du propos de Sandy, ça peut évoluer aussi dans les deux directions, quoi, en fait.
Ça pose aussi la question de la présence des femmes dans les rédactions sportives aussi.
Tout à fait.
C'est important de souligner quand même l'entrée des femmes dans certains sports qu'on a pu nommer de force. Je pense par exemple au cyclisme, à la boxe, la lutte, l'haltérophilie plus récemment. Et dans cette idée, on peut penser que certaines femmes essayent de prendre le sport, en fait, comme un moyen de se réapproprier son propre corps. Gaëlle Debeau, vous avez exploré, on l'a dit précédemment, les œuvres d'autrices telles que Yamina Benamendao, mais aussi Fanny Chiarello. Est-ce qu'on peut déjà revenir dessus et surtout évoquer pourquoi écrire sur le sport est-il important pour ces femmes ?
Alors, en fait, moi, ce que je constate comme gros point commun entre toutes ces autrices qui parlent du sport, c'est le fait que c'est d'abord un lien avec leur enfance. Donc en fait, elles en parlent parce que c'est une façon de parler de leurs souvenirs d'enfance. C'est l'extrait que je vous ai lu de Brigitte Giraud, mais Yamina Benabeddaou aussi, elle se rappelle les moments où elle regardait les matchs de foot avec ses grands frères et son père. Virginie Troussier, qui est une autre autrice qui a écrit un ouvrage, elle est journaliste sportive, Virginie Troussier, elle écrit pour des magazines plutôt du côté des sports de montagne ou de la voile, et elle est elle-même, elle pratique des sports et des sports qu'on pourrait dire un peu extrêmes, et elle a écrit un texte que je trouve très beau qui s'appelle Pendant que les champs brûlent, où elle aussi, elle revient sur ce souvenir d'enfance et notamment toutes les randonnées en montagne qu'elle faisait avec son père et à quel point ça lui a appris le goût de l'effort, l'envie de se dépasser, le goût du risque aussi. Et ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce goût du sport que l'on a, qui est aussi une façon d'entretenir un rapport avec son enfance, c'est pas du tout féminin ni masculin. En fait, c'est assez universel, si on peut s'autoriser le terme. Alors après, pourquoi est-ce qu'elles écrivent sur le sport? En fait, ce qui est intéressant, et vous avez cité Fanny Chiarello, qui est aussi une autrice contemporaine que j'aime beaucoup et dont je vous conseille la lecture. Elle tient aussi un blog sur Internet où elle donne accès un petit peu à l'envers du décor et elle explique comment elle travaille ses œuvres. Et en fait, elle explique que que pour elle, écrire et courir, c'est la même chose. C'est-à-dire que écrire, ça lui vient quand elle court, et elle court très souvent, et elle court des petites distances, des longues distances, et c'est en courant que lui viennent ses idées, c'est en courant qu'elle écrit. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple, chez une autre autrice contemporaine qui s'appelle Cécile Coulon, qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Petit éloge du running », je crois, qui est organisé comme un marathon avec les étapes du marathon. Elle-même, elle est marathonienne, et elle explique qu'en fait, pour elle aussi, courir, c'est écrire. Une troisième autrice, Alison Bechdel, qui est une autrice de bande dessinée américaine, a fait récemment toute une BD qui est un peu sa biographie, où elle revient sur justement le fait qu'elle n'a jamais réussi à créer en dehors de sa pratique du sport et que sans sport, en fait, elle ne peut pas écrire. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est s'autoriser le sport et s'autoriser à écrire sur le sport, c'est se construire en tant que... d'une certaine façon femme puissante dont je parlais tout à l'heure éventuellement, ou en tout cas femme qui est dotée d'une certaine puissance, et que cette puissance de la femme de sport, c'est aussi une puissance de la femme qui écrit, et donc c'est aussi s'autoriser à être autrice en fait, et les deux vont de pair dans ces textes là et moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup, de voir comment elles construisent aussi leur figure d'autrice à travers cette image de la pratique sportive.
Et j'imagine qu'elles l'évoquent, mais comment ces femmes, elles se réapproprient leur corps par la pratique sportive?
Elles l'évoquent à travers un peu ce que je disais tout à l'heure dans l'œuvre de Yamina Benhamed Dao sur la façon dont elles vont décrire ce qu'elles vivent quand elles font du sport, ce qui se passe dans leur corps. Et en fait, j'ai l'impression que dans ces textes-là, on les lit aussi en train de reprendre conscience qu'elles sont un corps. Et c'est vrai que quand on écrit, il y a un geste physique dans le fait d'écrire. Alors j'allais faire le geste de l'écriture à la main, mais probablement que c'est plutôt sur un clavier d'ordinateur. Il y a un geste physique, mais qui est très minime en fait. Elles passent leur journée assises sur une chaise face à leur écran d'ordinateur. Peut-être qu'on peut oublier qu'on est un corps dans ces moments-là. Et là, le fait pour elles de faire du sport, c'est de reprendre conscience de ça, de leur corporéité, de leur corporalité, et ce que leur corps leur permet de faire. Et pour certaines, il y a aussi un enjeu de découverte d'une forme de sexualité autre. Le sport, c'est aussi une forme d'érotisme, en fait, de plaisir du sport, mais parfois de plaisir dans la souffrance. Il y a beaucoup de passages comme ça, et aussi de corps parfois un peu dénudés, qu'on soit à la natation et en maillot de bain, qu'on fasse de la course à pied en brassière et en short, et accepter de montrer ce corps à demi nu dans l'espace public. Voilà. Donc il y a tout un travail aussi autour de ça.
Sandy, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la boxe?
Oui, puis c'est aussi une thématique qu'on retrouve beaucoup, et je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on a maintenant l'impression que c'est, voilà, on a accès à tout, et puis on peut faire maintenant tout type de sport. En fait, on se rend compte que pas du tout. En fait, les stéréotypes dont je parlais tout à l'heure, les discours médicaux par exemple, qui empêchaient au départ de faire du sport, alors qui maintenant nous font rire, hein, mais on trouve dans les médias des phrases qui sont incroyables, enfin qui nous paraissent maintenant incroyables, mais par exemple au départ on interdisait aux femmes d'utiliser donc ce qu'on appelait à ce moment-là la bicyclette, en disant que ça avait un risque en fait de les rendre infertiles. Et puis en fait ça rejoint plutôt ce que disait Gaëlle là, c'est-à-dire qu'en fait c'est aussi l'idée de les laisser aller seules dans l'espace public, et en fait pour pouvoir faire du vélo, bah fallait enlever le corset. Et donc en fait le fait de commencer à se déplacer en bicyclette leur donnait à la fois une liberté, c'est-à-dire qu'elles pouvaient aller plus loin seules dans l'espace public, et pour faire ça en fait les pantalons qu'elles avaient ou les robes plutôt qu'elles avaient c'était plutôt gênant. Et donc en gros c'est ça en fait qui faisait peur à ce moment-là, et qui amenait des médecins, parce que c'est beaucoup des discours médicaux qui étaient repris dans les médias et qui servaient en fait de d'alibi. Maintenant en fait on retrouve des discours, mais pour des choses qui paraissent très naturelles, et notamment pour les femmes qui sont enceintes, pour lesquels pendant très longtemps on a dit aucun sport. En fait, historiquement, nous on a recherché dans les médias, on disait en fait aucun sport, c'est hyper dangereux, donc le risque de perdre le bébé, d'avoir un bébé de petit poids, etc., etc. Et en fait, ce dont on se rend compte maintenant, les discours ont évolué. Dans les médias, on a commencé à dire en fait elles peuvent faire du sport, c'est même bien pour elles, mais faut des types de sport. Alors les images qu'on va trouver plus facilement, le yoga, la natation. Et en fait, ce dont on se rend compte maintenant, c'est qu'il y a plein de médecins qui disent en fait elles peuvent faire les sports qu'elles veulent. Mais il suffit d'aller regarder certaines femmes qui ont continué la course à pied, par exemple, et qui, en fait, ont, en termes médiatiques, ont été extrêmement maltraitées, et pour lesquelles, j'ai quelques exemples sur les corpus, par exemple, de journalistiques, dans lesquels on disait, c'est pas compliqué de savoir ce que ça donnera, une très très mauvaise mère, parce que quand on se permet de faire prendre un risque comme ça à son bébé quand il est encore dans son ventre, c'est même pas la peine de regarder ce qu'elle va devenir. Voilà en fait ce qu'on lit, et là, je parle de ça il y a encore 2-3 ans, dans certains médias. Donc en fait, je dirais que c'est les stéréotypes... des places sur certains éléments, mais il reste des points vraiment de résistance. Et du coup, pas, donc on les trouve en boxe, mais je pense qu'on les trouve aussi dans, voilà, dans plein d'éléments différents. Et juste pour terminer sur les questions de mixité, on parlait des femmes journalistes tout à l'heure. C'est, faut quand même rappeler, c'est moins de 15% actuellement de femmes dans les rédactions sportives qui ne sont pas équitablement réparties. Et on sait que c'est un métier qui est... Pourquoi il y a ces résistances aussi ? Parce que c'est un métier qui est extrêmement concurrentiel. C'est-à-dire que ça fait partie des métiers dits passion. Et nous, on le voit bien. En fait, souvent, les rédactions nous disent bah, « En fait, il n'y a pas de femmes qui viennent. » Et en fait, nous, bon là, je prends ma casquette responsable d'une formation en journalisme à l'IUT de Lannion. Des étudiantes qui veulent faire du journalisme de sport, on en trouve. Par contre, elles ont des obstacles à surmonter et parfois, quand elles font leur premier stage au sein de rédaction, elles reviennent et puis elles nous disent « En fait, je ne vais pas faire ce pas. Je ne vais pas faire ça comme spécialisation parce qu'en fait, c'est parfois trop coûteux en termes de carrière parce que les ambiances peuvent être complexes. Encore une fois, pas dans tous les médias, mais ça veut dire que selon les lignes éditoriales, selon les conditions, bah, quand c'est un métier concurrentiel, bah, voilà, parfois c'est compliqué. Donc il y a aussi tout ça en fait, qui perdure clairement avec, bah, là on le voit, un ratio bien pire que celui du journalisme économique ou politique qui étaient ceux qui étaient très masculins avant, quoi.
Pour revenir rapidement sur la bicyclette, le discours médical, pour être plus précis, disait que avait peur en fait que les femmes s'adonnent à des pratiques masturbatoires par le frottement de la selle en fait. Donc voilà, on était à ce genre de discours. Et peut-être pour terminer, donner un exemple concret et plus récent, j'ai trouvé ça dans le dernier numéro donc de la Déferlante. Et l'hiver 2020, on a deux surfeuses, donc une brésilienne qui s'appelle Maya Gabeira et la française Justine Dupont, qui donc concouraient en catégorie femmes dans ce qu'on appelle le surf XXL, donc les vagues de plus de 20 mètres, et qui ont établi les meilleures performances toutes catégories confondues, donc même meilleures que leurs homologues masculins. De quoi faire réagir un peu les plus conservateurs. Et donc, deux chercheuses en sociologie du sport décident de s'attarder sur cette question-là pour essayer de comprendre notamment les effets d'une catégorisation sexuée, en fait, sur ces femmes-là. Et quand dans leurs travaux, elles montrent les pressions qui pesaient justement sur ces surfeuses, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire cette double injonction en fait à la fois esthétique et performante, c'est-à-dire il faut être belle pour s'attirer les sponsors et être rémunérée, et à la fois être performante pour rentrer dans le classement. Ce que montrent les chercheuses aussi, c'est qu'en changeant de catégorie, donc en passant des concours classiques, on va dire des compétitions classiques de surf aux compétitions XXL, elles se sont détachées progressivement de cette injonction esthétique pour se concentrer essentiellement sur la performance et ainsi mettre leurs homologues masculins à terre et faire taire aussi par conséquent les discours un peu médiatiques. Et donc face à ça, les scientifiques ont conclu, et je les cite ici, « Les différences supposées naturelles sont érigées comme preuve et justification d'une bicatégorisation sexuée qui est en définitive construite et réifiée. » Phrase un peu sociologie barbare peut-être pour certains, mais l'idée c'est de dire que mettre catégorie femme et homme n'est pas justifié, que c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est bien quelque chose de construit. Et justement, bah, qu'en pensez-vous de cette non-mixité ? Est-ce que la mixité pourrait être une solution potentielle à certaines choses qu'on a pu évoquer ?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire là, cet exemple-là, ça reste quand même un contre-exemple pour plein d'éléments. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait dire... Alors, ça ne va pas faire taire des discours médiatiques stéréotypés parce qu'en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont arriver à un haut niveau de médiatisation. Et ça pose quand même toujours derrière la question des sponsors. Et c'est ça qui est quand même compliqué à comprendre. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que la mixité, oui, c'est un élément qui est particulièrement intéressant dans certains types de sports. Et par exemple, je parlais tout à l'heure de l'importance au collège et au lycée. Et on sait que là, par exemple, ça pourrait l'être. Sauf qu'on sait aussi que les recherches ont aussi montré que la mixité, parfois, empêche les femmes de pouvoir pratiquer, notamment au collège ou au lycée, parce qu'on est un élément de construction des identités de genre. Et donc, même si on a l'impression que les choses changent pour beaucoup, en fait, on voit dans les recherches là, consacrées au collège et au lycée que se jouent de façon extrêmement forte des identités de genre et d'orientation sexuelle qui restent extrêmement fortes et pour lesquelles, on le sait, hein, par exemple, sur les réseaux sociaux, on sait que, et là aussi, hein, toutes les enquêtes sur les cyberviolences montrent que les deux facteurs qui sont les plus importants, enfin, qui amènent les personnes à subir des cyberviolences, c'est le genre, donc les femmes en subissent beaucoup plus, et le deuxième, c'est une catégorie large LGBTQI+, qui sont beaucoup plus sensibles. Donc ça veut dire que dans les collèges et les lycées, la mixité peut aussi avoir ce frein. Et donc, bah, par exemple, des personnes qui vont pas aller dans des cours de sport et qui vont pas se sentir capables de le faire. Et c'est ça le risque. Et pourquoi ? Parce que généralement, dès avant le collège et le lycée, il y a une forte distinction dans les familles. Et donc les filles, de fait, parfois sont moins sportives si elles n'ont pas eu un entourage familial qui leur a dit « mais en fait, tu peux faire du sport comme les autres ». Et donc elles vont se retrouver à nouveau dans ce... Donc c'est pour ça que voilà, la mixité peut de fait être une piste, mais parfois, si on la sort du haut niveau, peut aussi être un frein. On vient avec déjà plein d'inégalités avant le collège. Et donc, bah, ça veut dire que oui, arriver au haut niveau, bah, on comprend que c'est compliqué. Donc, c'est vrai que c'est des éléments qui sont complexes. C'est une bonne piste, mais je dirais que là aussi, bah, comme, voilà, comme toutes les pistes, il y a aussi des limites sur la mixité.
Gaëlle ?
En fait, une autre anthologie de textes sur la littérature et le sport existe, est toute récente, par Julien Le Gall, qui s'appelle « Des écrivains et du sport ». Et dedans, donc, voilà, il fait le portrait d'une trentaine d'écrivains avec des extraits, et il y a deux autrices, Agatha Christie, non, il y a trois autrices, Colette, Agatha Christie et Virginia Woolf, et Virginia Woolf, qui est donc une autrice britannique, du XXe siècle, très importante dans l'histoire de la littérature, en fait, n'a pas écrit d'ouvrage sur le sport, mais on a retrouvé dans sa correspondance la trace de sa pratique sportive, parce qu'elle avait une pratique sportive avérée, et notamment une anecdote, elle a été en voyage avec son mari en Afrique du Sud, et lors d'un de ses voyages en Afrique du Sud, en fait, ils se sont essayés au surf, tous les deux, et ils se sont pris de passion pour le surf, et ce qui est très drôle dans les lettres, c'est que ce qui ressort, c'est qu'ils sont vraiment nuls, tous les deux, pareil. Voilà.
C'est une belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir collaboré pour cette conférence, et merci de nous avoir écoutés.
On va se quitter en musique avec « De mon âme à ton âme » de Compromat. Nouveauté de cette nouvelle saison 2023-2024, les émissions du vendredi 13h, c'est-à-dire celle-ci, les héroïnes « Une heure avec des meufs », mais également « Chercheurs en ville »,« La mort tout un art » et « Fréquences follement curieuses », sont rediffusées le dimanche qui suit à 10h. Vous pourrez donc réécouter cette émission dimanche 5 novembre. Et puis bonjour à nos auditeurs-trices, nos auditeurices du dimanche matin. On se retrouve le vendredi 17 novembre pour une nouvelle Les Héroïnes, une heure avec des meufs. Les meufs qui seront autour du plateau ce jour-là militent chez Nous Toutes 35 et on parlera avec elles notamment de la journée du 25 novembre qui se prépare, qui est la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut des cimes aux profondeurs.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.